Vous n'avez rien contre les omelettes?
Non, rien du tout.
Je suis Émilie Lestari et vous écoutez Bouffon.
Voilà, les ingrédients ont
bouillé. J'adore ça.
Des plats à base d'épices.
La recette d'aujourd'hui, c'est les spézelles.
Oh, bon, merci. Vous pouvez déguster ce que je mange.
Why I'm cooking so good!
C'est une situation que beaucoup de gens connaissent. Être loin de chez soi, parce qu'on est en vacances dans un pays étranger, ou pour le taf dans une ville que l'on ne connaît pas, et devoir se nourrir. Perso, c'est l'un des trucs que je préfère avec la découverte d'un lieu géographique. Identifier les spécialités du coin, chercher une bonne adresse, demander des conseils, recouper des informations trouvées sur Internet, regarder l'itinéraire pour rejoindre cette petite cantine. En soi, faire tout ça, c'est déjà s'approprier un peu l'endroit, se renseigner sur les quartiers et ce que font les locaux. Être loin de chez soi, c'est aussi accepter de rompre avec nos repères habituels. On ne peut plus compter sur son frigo, sur sa boulangerie préférée, sur sa brasserie classique, sur ses adresses sûres. Être ailleurs que dans son contexte ordinaire, ça a donc parfois un goût d'aventure, d'imprévu, de surprise, et potentiellement de raté. En particulier lorsqu'on a la contrainte d'une maladie, comme le diabète par exemple. C'est le cas d'Inès Marza, alias Inès Alpha, que j'ai rencontré à Lille il y a quelques années. Inès est une artiste dont l'un des terrains de jeu est la conception en réalité augmentée de filtres Instagram qu'elle envisage comme du maquillage 3D. Pour son travail, il lui arrive de partir à l'étranger et c'est à chaque fois un peu d'organisation à prévoir entre ses stylos d'insuline à glisser dans la valise et le fait de devoir anticiper le taux de glucides dans un repas.
Comme je suis diabétique, raison de plus, je n'aime pas perdre mon temps et mon argent et mon insuline pour manger. C'est-à-dire que si je mange un plat et que j'ai fait de l'insuline pour pouvoir manger ce plat et qu'il n'est pas bon, je suis obligée de le manger.
Mais avant ça, j'ai reçu Julien Lelièvre. Julien est photographe et il a sorti cette année un magnifique livre aux éditions Building Paris, dans lequel on retrouve un inventaire photographique sur lequel il a travaillé pendant plusieurs années. Cet inventaire, c'est celui des œuvres d'art présentes sur le réseau autoroutier. Vous savez, ces structures monumentales que vous avez forcément déjà croisées sur la route, genre les flèches des cathédrales sur l'A10 ou encore le gros sanglier sur une aire de repos de l'A34. Julien a sillonné les autoroutes de France à bord de sa Golf afin d'aller photographier toutes ses œuvres gigantesques. Il a passé des journées entières à engranger des kilomètres et des kilomètres, seul dans son habitacle, les yeux fixés droit devant lui. J'ai demandé à Julien de nous raconter ses virées et surtout à quoi ressemblaient ses repas.
Donc j'ai fait un projet sur l'art d'autoroute. Un projet qui m'a amené donc à prendre l'autoroute plusieurs fois sur plus de 2 ans et demi. Et donc, pendant ces trajets, il faut bien se nourrir. Et donc j'étais amené à plusieurs fois, au moment de ces itinéraires, à trouver des solutions pour me nourrir. Et souvent, qui se résumaient au fait de manger des sandwichs triangles sur les aires de repos ou les aires de service des autoroutes.
Les sandwichs triangles, parce que c'est surtout ça qu'on peut attraper facilement dans les aires d'autoroute, finalement.
Oui, et c'est surtout quelque chose qu'on peut manger en conduisant, en fait. L'impératif pour moi, c'était d'optimiser le temps de trajet, le temps sur la route, de perdre le moins de temps possible, en fait, à ne pas faire des photos. Donc, assez souvent, je prenais ce temps pour me nourrir, je le prenais en même temps que je faisais la route. Donc, ça impliquait d'évacuer tout ce qui est hamburger, côte de bœuf, tout ce que tu veux, et de se limiter à un objet qui, à mon avis, est aussi conçu pour ça, dans sa matérialité, dans quelque chose qu'on peut manger à une main en même temps qu'on conduit de l'autre. Ma solution, les 3/4 du temps, se résumait à choisir une espèce de pack formule chips, sandwich triangle, boisson, pour pouvoir conduire en même temps et pas perdre de temps sur la route, quoi. Voilà.
Alors, avant qu'on se mette à vraiment plus en détail discuter donc de ces fameux déjeuners, peut-être que tu peux nous expliquer ce qu'est l'art d'autoroute.
Alors, l'art d'autoroute, c'est un art de commande proposé par des sculpteurs assez souvent, dans le but de, on va dire, agrémenter, décorer, rythmer les bords de route des autoroutes en France. Donc, c'est une pratique qui a eu lieu du début, enfin de la fin des années 70 jusqu'à même encore quelques-unes maintenant. Mais il y a surtout eu plus de 20 ans de production entre fin 70 et début des années 2000 de commandes réalisées et commanditées souvent par les sociétés d'autoroute, enfin pas souvent, même les 3/4 du temps. Donc ces commandes, tout le monde en connaît une, tout le monde en a déjà vu une, Sauf qu'on ne sait pas forcément que c'est une œuvre d'art. On ne sait pas forcément dans quel contexte elle a été faite, mais on en connaît forcément une.
C'est des structures géantes, en fait, qu'on voit en bord d'autoroute, sur les aires d'autoroute.
C'est ça. Il y a différentes typologies. Il y en a qui sont monumentales. Souvent, les plus monumentales, elles ne sont pas vraiment accessibles. Elles sont sur les terre-pleins, elles sont sur les côtés. Et puis, il y en a qu'on voit sans vraiment les voir, comme des fontaines, ce genre de choses qu'on peut voir sur les aires de repos ou les aires de service. Donc, il y a un peu toutes les formes qui se regroupent sur cette production.
Est-ce qu'on peut en citer quelques-unes? Moi, par exemple, je pense au sanglier qu'on trouve sur l'A34,
ouais.
Sur une aire en fait des Ardennes.
C'est ça.
Il y a aussi le V de Vasarely qui est
à
très
côté
connu.
De Aix, en Provence. Ouais.
Sur l'A8.
Il y a les flèches des cathédrales qui sont, je pense, les plus connues de Georges Solter, qui sont en direction d'Orléans. Il y a sur la trace des Vikings, toujours, de Georges Solter, quand on prend la route pour aller sur Rouen.
Georges Solter, qui a du coup été l'un des plus grands participants, finalement, à l'art d'autoroute.
Oui, celui qui en a fait le plus, oui. Après, il y a des gens très connus, comme Martha Pan, qui a fait une sculpture monumentale juste avant d'arriver à Lyon, qui s'appelle Le Signe Infini. Il y en a beaucoup, enfin voilà, moi j'en ai recensé 71, donc parfois il y a des artistes qui en ont fait plusieurs. Parfois, il y a des artistes très connus, comme Vasarely, que tu citais tout à l'heure. Il y a aussi des artistes qui sont beaucoup moins connus.
Et ça a été ça, donc, mon projet photographique, ouais. C'est de proposer un inventaire de toutes ces œuvres d'art qu'on trouve sur l'autoroute.
C'est ça, un projet d'inventaire qui m'a pris presque 10 ans, entre le moment où j'ai eu une allocation de recherche du Centre National des Arts Plastiques, qui m'a permis de faire ce projet-là, en gros. Et le moment où le livre qui regroupe toutes ces recherches sort, il s'est passé 10 ans, parce qu'il a fallu refaire une carte, il a fallu préparer des itinéraires. Le fait de préparer des itinéraires, souvent tu pars en disant que tu vas faire, je sais pas, 1000 km, 2000 km. Il faut essayer de faire ça en 2 jours, 3 jours, 4 jours. Donc tout de suite, perdre 1 heure ou 2 heures pour se mettre à table, pour sortir d'autoroute, trouver un restaurant dans un village à côté, c'est très compliqué et c'est pas du tout dans l'idée que moi je m'étais faite de l'optimisation de ces trajets. Donc je me suis souvent un peu cantonné à ce qu'on me proposait sur place. Voilà. Et comme je pense beaucoup de gens sur la route, au final, je n'étais pas tout seul à voir cette solution. Et quand on regarde aujourd'hui les aires de service telles qu'elles sont proposées, on se rend compte que il y a aussi une espèce d'optimisation du format nourriture. Quoi. Il y a ceux qui prennent le temps de manger. Donc,
au restaurant de l'Arche, par
exactement.
Exemple.
Et puis, il y a ceux qui n'ont pas beaucoup le temps ou qui n'ont pas beaucoup les moyens et qui vont trouver ces solutions annexes. Quoi.
Et alors, qu'est-ce que tu mangeais exactement comme sandwich triangle?
Moi, j'essayais de trouver le moins compliqué et surtout le moins dangereux, on va dire, en termes d'objets. Donc, un sandwich, tu vois, emmental jambon, un truc tout bête. Mais qui me permet, pour lequel j'étais sûr en fait qu'il y aurait pas de pépins au moment où je le mangerais.
Donc pas de sauce qui coule.
Exactement, pas de sauce qui coule, pas de morceau de viande qui sort ou un morceau de, je sais pas, de légumes qui peut tomber. Donc un truc plutôt optimisé.
Voilà. Donc bien compact, le genre de sandwich qui propose de rester vraiment bien attaché à chaque bouchée que tu vas croquer.
C'est ça, un espèce de ouais, un conglomérat, un assemblage de choses qui font que ça reste hyper fonctionnel aussi. Après, dans la forme, on s'aperçoit quand même que c'est... Moi, je pense vraiment que ça a été aussi étudié pour, quoi. Même le choix, parfois, quand tu regardes ce qui est proposé, il n'y a jamais de choses très compliquées dans le découpage ou dans la manière dont c'est assemblé. Ça reste des choses qui ne tombent pas ou quasiment pas, qui sont monoblocs presque.
Voilà. C'est coupé en morceaux suffisamment petits pour vraiment être attrapé par la bouche en un seul coup.
C'est ça, exactement. Et je pense que ça participe, pour avoir vu, parce que bon, sur la route, tu vois ce que les gens font aussi dans leur voiture. Je n'étais pas le seul à manger sur la route et je pense qu'on est pas mal quand même à faire encore ce genre de choses. Soit en famille, moi j'ai... Ça m'est déjà arrivé plein de fois de partir en famille avec mes enfants et ma compagne. Et je sais que mon fils adore manger un sandwich triangle à l'arrière de la voiture. Pour lui, c'est le summum de l'aventure. Donc, alors l'inconvénient qu'on peut trouver à ça aussi, c'est le... Moi, j'ai l'impression que c'est un sandwich qui est fait pour une certaine durée. Moi, je m'aperçois qu'en fait, quand tu manges un sandwich triangle, tu bois un peu d'eau qui va avec. Ça fait une espèce, à mon avis, de pâte à l'intérieur de ton estomac qui est digéré assez facilement, assez rapidement, pour que tu puisses t'arrêter deux heures après pour remanger autre chose, en fait. C'est un truc, à mon avis, qui est plutôt optimisé aussi pour ça,
ouais.
Dans le format. Donc, tu as l'impression d'être rassasié sur le coup, c'est un peu comme les fast-foods. Et quelques temps après, tu as de nouveau faim. Donc, c'est tout bénef pour les sociétés d'autoroute qui se retrouvent à avoir des gens qui s'arrêtent plusieurs fois. La pause toutes les deux heures, elle est aussi, c'est aussi une pause pour s'arrêter, pour décompresser, mais pour aussi remanger ou reboire quelque chose, je
pense. Et donc forcément reconsommer de ces produits qui sont très chers pour ce qu'ils sont.
Exactement, ouais, exactement. C'est-à-dire que le panier moyen, c'était entre 15 et 20 euros pour un repas du midi, tu vois, qui est quand même... Aujourd'hui, si tu vas dans un restaurant, tu prends la même chose, c'est beaucoup plus conséquent, quoi.
Oui, ton plat du jour va être bon et pour ce prix-là.
Exactement, ouais. Et donc, l'autre option, ça aurait été de faire ce que font beaucoup de gens, ce que peuvent faire mes parents quand ils partent en vacances, ils font leur propre sandwich, la glacière dans le coffre, etc. Mais moi, je me suis aussi, quand je suis parti sur la route, je me fixais pas vraiment d'horaire, je me fixais pas de... J'avais pas anticipé tout un tas de contextes. Et donc, ce que je disais à un moment donné dans le livre, c'est qu'il y a une espèce de rapport. Tu peux faire ce que tu veux à n'importe quelle... Enfin, pas ce que tu veux, mais tu peux faire tout un tas de choses sur l'autoroute à n'importe quelle heure. Alors, manger, boire, prendre une douche. Donc, c'est un endroit sur lequel, finalement, tout est presque possible. Et l'imprévu, il est presque calculé sur l'autoroute. Donc, tu peux t'arrêter à 1h du matin, prendre un sandwich triangle, remanger et c'est reparti. Quoi, voilà. Donc,
c'est vrai que tu es censé pouvoir faire ça à n'importe quelle heure de la journée comme de la nuit. T'arrêter, faire une pause pipi, prendre une douche parfois.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Acheter des trucs à snacker.
C'est ça. En fait, tu peux passer une semaine sur l'autoroute, dans l'absolu. Dormir, il y a des hôtels sur l'autoroute. Tu peux vivre sur l'autoroute, quoi.
Donc, c'est un univers très normé où, finalement, tu peux aussi décider de faire ces micro-choix qui sont des choix anticipés par les sociétés d'autoroute.
Tout est prévu, ouais.
Et donc, c'était souvent le même sandwich que tu prenais, ce fameux jambon emmental ?
Ouais, pas de surprise. Pas de surprise, pas de mauvaise surprise surtout. Enfin, ça m'est déjà arrivé d'essayer de prendre d'autres choses et au final, je pense que ceux qui conçoivent les sandwichs essaient aussi de diversifier leur offre, etc., en proposant des choses parfois un peu expérimentales.
Genre quoi ?
Genre les sandwichs triangle kebab. Je pense que là, on touche le fond. J'ai essayé même parfois, tu vois, de prendre des sandwichs avec du pain suédois, genre de choses. Ça ressemble plus finalement à un isolant qu'à du pain.
C'est un peu sec en plus, le pain suédois en sandwich triangle.
Une bouchée égale une bouteille d'eau. Donc, j'avais pas envie d'être déçu. J'avais pas envie de devoir m'arrêter une deuxième fois à reprendre autre chose. Donc, j'ai essayé de prendre un truc rassurant et pour lequel je sais que j'avais pas de surprise, quoi. Voilà.
Et t'en avais pas marre au bout de plusieurs repas à toujours manger ce même sandwich ?
Si, ouais, j'étais très content le soir de souvent de quitter l'autoroute et de retrouver une vie normale. Et là, je pense vraiment aux gens qui prennent l'autoroute tous les jours, qui font ça au quotidien. Et peut-être qu'ils sont pas du tout dans cette même optique. Peut-être qu'ils s'arrêtent pour se nourrir d'une autre manière. Mais quand tu t'arrêtes aussi une fois à l'Arche, par exemple, tu fais une heure de queue. Je trouve ça déprimant aussi de manger tout seul, tu vois, par exemple, dans un restaurant que tu trouves sur le bord de ta route, même si la nourriture est ce qu'elle est, bonne ou passable, mais le fait de se nourrir tout seul et d'avoir des tablées entières de gens qui sont sur la route, qui mangent tout seuls parce qu'ils sont tout seuls sur la route, je trouve ça assez glauque. Je préférais manger dans ma voiture.
Dans ton habitacle, seul
c'est
dans
ça,
ton habitacle.
En roulant, en écoutant la radio, la musique, ce que tu veux, quoi, en gros. Mais de ne pas se retrouver dans un truc, une solitude collective, quoi. C'était très, très bizarre.
Seuls, tous ensemble, quoi. C'était pas une sensation que tu voulais avoir.
Non, exactement.
Ouais, mais je comprends. Dernièrement, j'ai fait un petit week-end en Bretagne avec un pote. Et sur le retour, on s'est dit, allez, vas-y, on va se payer ce truc que nos parents ne faisaient pas. On va déjeuner à l'Arche. Et c'était drôle parce qu'on était deux aussi. Mais c'est vrai que... Seul, juste avec ce plateau en plastique rouge, ça m'aurait un peu foutu le bourdon, je pense.
J'ai pas trouvé une solution réellement saine. À un moment donné, un truc, c'est vraiment hyper agréable, hyper pour lequel tu dis ah là c'est cool, j'ai pas le sentiment d'avoir bu un litre d'huile, quoi. Donc j'ai pas trouvé de bonne solution en tout cas.
Après, il y a toujours l'option, mais bon, c'est pas très savoureux, des salades toutes faites avec juste le petit pot de sauce que tu vas ajouter. Mais en conduisant, c'est pas possible.
Impossible.
Ouais. Et donc, en dessert, c'était souvent donc, des M&M's ou ce genre de trucs sucrés.
C'est ça, ouais. On va jusqu'au bout de la junk food absolue. Et encore, pareil, tu vois, le paquet de M&M's, il est presque designé pour la route. Tu l'ouvres, tu le mets entre les deux sièges à l'avant et tout le monde se sert et c'est parti. Enfin, je veux dire, c'est un truc sans fin. Je pense qu'il y a pas mal de choses comme ça qui sont presque peut-être dessinées en termes de volume et de packaging, ce genre de choses qui sont faites pour être mises dans l'habitacle de la voiture, tu vois.
Ouais.
Un peu comme les paquets de mouchoirs que tu mets dans la porte. Ils font un format spécial qui s'ouvre sur le côté juste pour mettre dans la porte.
Et puis les bouteilles d'eau aussi maintenant qui ne nécessitent plus forcément que tu ouvres le bouchon puisque tu as un bouchon sport. Te nourrir exclusivement de ces sandwichs triangles, c'est vraiment embrasser donc la condition du conducteur sur le réseau autoroutier, mais jusqu'au bout, quoi. C'est vrai que tu t'es pas motivé à faire ce que parfois les familles font, ou même moi, ce que j'adore faire quand on part en week-end, c'est préparer des sandwichs et c'est moins cher et tu sais vraiment ce que tu mets dedans. Là, tu t'es dit, je vais vraiment embrasser les codes du réseau autoroutier jusqu'au bout pour le bien aussi de mon projet.
Ouais, moi, j'ai fait 2-3 séries d'images aussi dans les aires d'autoroute. Par exemple, tu vois, sur la manière dont sont classées et agencées les choses, les paquets de chips, les paquets de gâteaux. Et c'est fascinant. T'as l'impression d'être dans une photo de Gursky, quoi. Tu vois, une espèce de paquet de chips à l'infini. Et donc, ça fait partie de tout ça, comme le café, comme voilà, tout sous ces contextes, en fait. D'ailleurs, quand tu regardes bien, les gens s'arrêtent de moins en moins sur les aires de repos, qui sont des aires sur lesquelles il n'y a rien à part des toilettes et des bancs pour manger. Il y a quasiment, enfin moi, en ayant répété plusieurs fois des arrêts à différents niveaux pour des aires de repos ou des aires de service, il y a quasiment personne sur les aires de repos et tout le monde se concentre sur les aires de service.
Alors donc toi qui as pratiqué l'autoroute autant de fois, est-ce que tu t'es surpris du coup à être reposé par la vue de ces œuvres d'art d'autoroute?
Reposé, je sais pas, mais c'est en tout cas signaler, tu vois. Repérer. Je pense qu'il y a plein de gens qui les envisagent comme ça, comme des repères, qui se disent, en gros, pour des trajets qui sont récurrents, je sais que j'arrive à ma maison de campagne ou j'arrive chez mes parents, mes grands-parents, dans 30 minutes, dans une heure. Enfin, tu vois, il y a, pour plein de gens à qui j'en ai parlé, en tout cas, ça a plutôt cette fonction de repère. Et je pense qu'il y a plein d'œuvres qui s'appellent Signal sur l'autoroute. Et c'est pas pour rien, c'est-à-dire qu'à un moment donné, elles sont là pour signaler quelque chose à quelqu'un. Et le contexte de l'autoroute, il est aussi là pour ça. C'est-à-dire que tu vois ces œuvres assez souvent à 130 km/h. Il y en a beaucoup qui ont été conçues presque comme ça et pour ça, sur lequel il n'y a pas beaucoup de détails, c'est juste une forme, une énergie presque, tu vois.
Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans cet univers hyper normé et presque aliénant, c'est toi qui le disais, ça permet un peu aussi de rendre plus palpable un environnement.
Oui, c'est ça. Il y a plein de... Quand tu traverses des régions hyper peu vallonnées, hyper répétitives, en fait, il peut se passer une heure et demie pendant lesquelles il ne se passe quasiment rien, en fait. Vraiment quasiment... Donc le fait d'avoir ce genre de choses, ces espèces de monuments, on les appelle comme on veut, il y en a qui vont dire que ce ne sont pas des œuvres d'art, mais ces sculptures en tout cas, ces repères, ça permet en fait de... Moi en tout cas par exemple, c'est quelque chose que j'aimerais bien essayer de développer avec mes enfants plus tard. Leur poser des questions, leur dire, voilà, on a vu quelque chose, ça vous fait penser à quoi? Enfin, moi j'ai le souvenir que quand j'étais gamin sur la route, j'avais rien d'autre à faire que regarder ce qu'il y avait sur la route. Parce que c'est ce que dit Eric Tabouki dans le livre. L'ennui, il est hyper intéressant pour les enfants et puis pour les adultes aussi.
Un enfant sur la plage arrière d'une voiture, c'est vrai qu'il se passe plein de trucs dans son esprit. Moi, je me souviens que pour tuer le temps, quand on revenait de vacances avec mes parents, j'aimais bien regarder quand il pleuvait, par exemple, les gouttes d'eau sur la vitre, commençait à se mélanger l'une à l'autre, et puis parfois ça faisait des formes, et puis tout à coup, hop, ça finissait par tomber, et la petite flaque disparaissait de la vitre. Il y avait ça, ou alors le jeu avec ma petite sœur de dire, bah, là, dans la minute qui vient, on va croiser trois voitures rouges. Ah ouais, non, moi, ça. Je parie qu'on va plutôt voir cinq voitures vertes. Ah, mais non, tu triches, il y a beaucoup plus de voitures vertes que de voitures rouges.
Ouais. Et puis, c'est un truc que nous, on n'a peut-être pas fait, mais les plaques des voitures.
Carrément.
Les départements, tout genre de choses. Enfin, c'est des choses qu'on a un peu perdues. En tout cas, ou parfois la facilité des enfants de se retrouver derrière un téléphone, une tablette, va complètement annuler ces possibilités-là.
Et donc, contrairement à une expo où, bah, pour la découvrir, il faut décider d'y aller, là, quelque part, ce sont des œuvres d'art qui s'invitent dans le quotidien des gens.
Oui, elles sont fondamentalement pour tous les publics. Et, quand tu discutes de ce sujet avec des gens... peu importe si c'est des gens autour de toi qui vont être routiers, qui vont être dans la culture, dans le journalisme, dans ce que tu veux, il y aura toujours quelqu'un qui va en connaître une parce qu'il l'aura, il l'aura croisée. Ce qui est moins le cas dans l'absolu des œuvres que tu trouves dans les musées.
On s'est demandé avec Julien s'il était interdit ou non de manger au volant de sa voiture. En fait, le code de la route n'interdit pas expressément le fait de manger en conduisant, contrairement par exemple à l'usage du téléphone au volant, qui est sanctionné d'une amende et d'un retrait de points. Mais l'article R412-6 du code de la route prévoit que tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d'exécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres qui lui incombent. En résumé, vous pouvez totalement plonger votre main dans un paquet de chips en conduisant, tant que ça ne change rien à votre façon de gérer le véhicule. Après avoir discuté avec Julien d'art d'autoroute et de sandwich triangle, j'ai reçu Inès Alpha pour parler de ce que veut dire voyager quand on est diabétique. Le truc quand on est diabétique, c'est qu'on a un organisme qui a du mal à assimiler et utiliser le sucre présent dans notre alimentation, et grâce auquel on est censé avoir de l'énergie. En voyage, plus que jamais, on ne sait pas si on va marcher plus que d'habitude, se dépenser plus donc, et s'il y a beaucoup de glucides ou non dans les plats qu'on va consommer. Tout ça, ça influe énormément sur les besoins énergétiques et l'insuline à prendre. Pour autant, Inès est une grande gourmande et elle fait preuve d'une organisation impeccable pour profiter au maximum de ce qu'elle veut manger.
Alors pour moi, la nourriture, c'est hyper important et c'est la première chose que je vais viser quand je fais un voyage. Moi, je voyage principalement pour faire les temples, les paysages, c'est cool. Mais c'est vrai que mon objectif principal quand je voyage, c'est vraiment... Qu'est-ce que je vais pouvoir manger dans ce pays? C'est quoi la spécialité? Et je me fais des listes de toutes les spécialités que je veux goûter. Et après, je coche les cases un maximum. Et c'est vrai que je peux très bien me dire, je vais aller visiter ce temple parce que j'ai envie d'aller dans cette pâtisserie qui est pas loin.
Et alors, tu es aussi diabétique?
Oui.
À quel point ça a une influence sur ta façon de voyager?
Je suis diabétique de type 1. Donc, c'est un diabète génétique. C'est-à-dire que mon pancréas, il est fucked up, il est fatigué, il ne sécrète plus d'insuline, qui est l'hormone qui permet de transformer tout sucre, donc féculent et sucre lent et sucre rapide. Donc féculent, c'est pain, pâte, riz, toutes les farines, pommes de terre, il y a aussi des glucides dans la plupart des légumes, mais dans les légumes verts, il y en a moins, par exemple. Et bien sûr, tout ce qui est pâtisserie, dessert, fruits. Et donc l'insuline va transformer ces glucides en énergie pour que le corps puisse fonctionner. Donc, le transférer dans les muscles, les organes vitaux et tout ça. Et comme mon pancréas ne sécrète plus ou très très peu d'insuline, je suis obligée de faire des injections pour pouvoir transformer ce sucre en énergie. Sinon, le sucre stagne dans mon sang et là, je pourris et je meurs.
Ouais.
Potentiellement, si je grossis un peu les traits, c'est ça. Donc, ce qui se passe à l'étranger, c'est qu'il y a énormément de nourriture dans la plupart des pays qui est basée sur un apport glucidique assez important. Notamment, par exemple, l'Asie. C'est compliqué pour moi parce qu'il y a beaucoup de riz. Il y a beaucoup de farine de riz, que ce soit des nouilles ou tout ça. Et bah, j'aime quand même ça et j'adore en manger. Et il y a aussi des sauces avec beaucoup de sucre. La Corée, c'est un enfer. J'adore la nourriture coréenne, mais il y a beaucoup de sucre dans leur sauce.
Mmh.
Donc, la première fois que j'ai vraiment genre battu mes records de taux de sucre dans mon sang, c'était en mangeant un barbecue coréen avec le riz blanc et la sauce Un peu barbecue, miso, enfin il n'y a pas de miso dedans, je ne sais plus exactement ce qu'il y a dedans, mais très sucré.
Ouais, c'est ça qu'il y a beaucoup de sucre dans la cuisine coréenne. Ouais.
C'est infernal. C'est très compliqué pour moi. Bon, après, c'est juste une question de dose d'insuline adaptée. Ou de, bah, après, comme tu es en visite, comme tu es en voyage, tu marches toute la journée. Et le fait de dépenser de l'énergie, ça fait baisser les doses d'insuline aussi.
En gros, cette insuline que tu dois t'injecter, ça veut aussi dire que tu dois la transporter avec toi quand t'es en voyage.
Exactement, et en plusieurs exemplaires, si jamais ça tombe, ça casse, ou parce qu'à l'étranger, je vais pas aller dans n'importe quelle pharmacie avec mon ordonnance, ça va être compliqué. Donc j'ai plusieurs petits, c'est des petits stylos avec des aiguilles que je mets sur le bout. C'est hyper bien fait maintenant. Donc j'ai mon insuline et j'ai un lecteur de glycémie pour savoir à peu près quelle est... Donc la glycémie, c'est le taux de sucre dans le sang.
Ouais.
Et j'ai toujours mon lecteur de glycémie, surtout qu'en voyage, donc, comme je te disais, donc tu manges, mais tu marches aussi beaucoup. Et plus tu fais de l'exercice physique, plus ton taux de sucre descend. Et quand il est bas, c'est là où j'espère que pas loin, il y aura une pâtisserie ou une petite spécialité où je me dis, c'est le moment de déguster ce nouveau mets qui était sur ma liste.
Ah oui, d'accord. Ouais, donc en fait, plutôt que de, comment dire, de prendre un, je sais pas, du sucre que tu aurais sur toi ou un truc un peu inintéressant, tu te dis, mais ça tomberait trop bien qu'il y ait une spécialité là.
Voilà, j'essaye d'en profiter pour vraiment rentabiliser l'hypoglycémie, donc qui est un taux de sucre bas. Hypoglycémie, hyperglycémie, donc c'est quand tu es au-dessus du bon taux de sucre. Hyperglycémie, il faut faire de l'insuline pour faire baisser. Et hypoglycémie, il faut manger quelque chose avec un apport en sucre pour pouvoir remonter.
D'accord. Et pour du coup connaître cet état d'hypoglycémie ou alors d'hyperglycémie, tu dois être capable donc de faire des tests à n'importe quel moment de la journée ?
Normalement, les tests, on les fait avant un repas et après un repas. Ou si, par exemple, on a des symptômes d'hyper ou d'hypoglycémie. Si tout d'un coup, je me sens un peu fébrile, que je commence à trembler, j'ai du mal à énoncer mes pensées, je peux être en hypoglycémie. Et donc là, alors aujourd'hui, il y a un système qui est très bien fait, qui est un patch que tu mets sur le côté des bras. Je vais te montrer.
Ah oui, d'accord. Donc un patch qui
un petit patron
qui a peut-être
de la...
un centimètre et demi d'épaisseur et qui est rond.
2 euros. Enfin, un peu plus gros que 2 euros.
Ouais. Oui, c'est vrai que ça ressemble à une pièce de 2 euros.
Voilà. Donc il y a un côté un peu cyborg, hyper sympa.
Ouais.
J'aime beaucoup la science-fiction, donc ça tombe très bien. Et donc je peux passer maintenant avec les nouveaux téléphones. Mon iPhone 5, ça ne marchait pas, mais mon iPhone 10, ça marche. Il y a une application. Je le passe devant mon patch. Et là, je sais à quel taux de sucre je suis.
Waouh, incroyable!
Une courbe, ouais, c'est incroyable. Et je peux faire ce test toute la journée quand je veux. Avant, il fallait que je me pique le bout du doigt, que je fasse sortir une goutte de sang et que je le mette sur une bandelette que j'insérais dans une petite machine, un petit lecteur. Ça, c'était un peu plus chiant parce qu'il fallait se laver les mains. Donc, quand t'es dans un pays où il n'y a pas des toilettes avec des lavabos et du savon partout, t'es là. Et tu ne peux pas utiliser le gel hydroalcoolique.
Ouais.
Parce que dans l'alcool, il y a du sucre. Donc, ça peut fausser tes résultats.
Ah oui, d'accord. Donc même ce truc-là peut avoir une influence sur ton résultat.
Voilà.
Ça, donc, comment ça s'appelle exactement ce que tu m'as montré?
C'est un patch, c'est Freestyle. Ça, c'est le nom. Il est super nul, le nom.
Le patch Freestyle.
Le patch Freestyle, c'est la marque. Freestyle Libre, ça s'appelle. Ils ont sorti ça il y a quelques années et ça change beaucoup la vie des diabétiques. Ça facilite énormément la routine.
Ouais. Alors, tu l'as dit, ouais, quand on est en voyage, on marche souvent. C'est vrai, en fait, c'est un peu, que ce soit pour les vacances ou alors un voyage professionnel, c'est un peu des moments exceptionnels dans une vie, dans le sens où quand on est loin de chez soi, ben, on marche souvent pour rallier un point A, un point B pour le travail ou autre, ou se balader. Et puis surtout, donc, il y a cette histoire d'être un peu perdu dans un nouveau monde. C'est un peu comme un nouveau jeu quand ça se passe bien, parce que tu dis, qu'est-ce que je vais pouvoir manger au prochain repas et autres. Toi, du coup, pour aborder tout ça en amont, quelles sont tes astuces pour peut-être te préparer? Est-ce que du coup tu te fais des maps avec les adresses dont tu parlais, ou est-ce que tu essaies de te dire, alors ce jour-là je vais beaucoup marcher, donc faut que je fasse attention, ce serait bien un moment que j'ai quand même ça dans mon sac en cas d'hypoglycémie?
Alors moi déjà, il y a le premier truc, c'est que j'ai une application qui s'appelle Mapster.
Ah bah oui,
je
oui.
fais de la pub, que j'aime beaucoup, et surtout que j'ai 2-3 potes qui l'utilisent aussi, donc je profite de leur map quand je vais à l'étranger dans des villes que je ne connais pas. Et vraiment, parfois, il peut m'arriver vraiment de changer ma route et de me dire, je préfère aller dans je sais pas, en Suède, je sais qu'il y a cette boulangerie qui va faire des cannelbelés, donc des roulés à la cannelle que j'adore. Eh ben, je préfère faire un détour pour aller manger le cannelbelé que faire le musée de je sais pas quoi.
Ouais.
C'est vraiment, moi, c'est priorité en voyage, c'est bouffe, lieu historique, musée en dernier. Comme je suis diabétique, raison de plus, je n'aime pas, perdre mon temps et mon argent et mon insuline pour manger. C'est-à-dire que si je mange un plat et que j'ai fait de l'insuline pour pouvoir manger ce plat et qu'il est pas bon, je suis obligée de le manger. Parce que j'ai fait de l'insuline pour le manger. C'est tellement important pour moi, ce plaisir culinaire et gustatif, d'autant plus que je dois faire de l'insuline pour, que...
Tu peux pas te permettre de rater un repas, quoi, en fait. Tu serais trop deg de dire, bah là, j'ai fait tout ça, entre guillemets, pour rien.
Ça peut me pourrir ma journée.
Ouais. Et alors, du coup, dans ta valise, est-ce qu'elle est vraiment alourdie par le matos que tu dois avoir avec toi?
Pas forcément, non. Il y a quelques stylos. J'ai deux... Ça a vraiment la taille d'un stylo. Donc, j'en ai deux que j'ai toujours avec moi, plus des aiguilles, donc que je mets au bout de mes stylos. Quand je vais en voyage, quand je vais loin, ou même quand je reste même en France, j'ai toujours deux autres stylos au cas où mes deux stylos principaux cassent. Et si je vais vraiment loin, j'en prends encore deux au cas où si les deux autres se pètent ou je sais pas quoi. Donc, par sécurité, mais c'est vraiment petit, c'est pas très très lourd. Après, j'ai toujours une petite pochette avec moi dans mon sac à dos en soirée. J'ai un peu du mal à aller en soirée avec juste ma carte bleue et mon téléphone parce que je dois avoir... Toujours avec moi, j'ai mes stylos d'insuline, ma carte comme quoi je suis diabétique et un certificat qui le justifie à l'étranger, donc en anglais. Et toujours du sucre et des biscuits.
Okay.
Pour, en cas d'hypoglycémie, s'il n'y a rien à côté de moi, s'il n'y a pas... et même en cas d'hypoglycémie, même ne serait-ce qu'aller au G20 du coin me prendre un coca, bah, le temps d'y aller, de payer, je vais avoir du mal à payer, je vais faire...
Tu vas te sentir super faible, en fait.
Ouais, c'est vraiment, tu peux vraiment, même parfois chez moi, je fais une hypoglycémie, je me pose sur le canapé avec mes biscuits et j'attends que ça passe et j'ai pas assez de force pour descendre les escaliers.
Et alors, tout à l'heure, tu nous expliquais ce qu'est le diabète et ce qui se passe vraiment dans l'organisme. De type 1, donc ça veut dire que c'est génétique.
Alors, moi, je suis un cas particulier parce que comme c'est que très récemment que je suis diabétique, du coup, j'ai des petites doses d'insuline. Normalement, diabétique de type 1, tu contractes la maladie quand t'es enfant, jusqu'à 20 ans. Moi, je l'ai contracté à 31 ans. Donc, parfois, ce que je fais, je peux me permettre de le faire parce que j'ai pas besoin d'énormément d'insuline. Je fais des repas où il y a très peu de glucides. Donc, je fais des repas où je mange des légumes verts et des protéines. Et ça ne se répercute pas du tout sur mon taux de sucre. Et comme ça, je fais pas d'insuline. Et en fait, ce qui est pas mal, c'est que plus tu fais des petites doses d'insuline, moins tu as de chances de te tromper. C'est-à-dire que si je fais une trop grosse dose d'insuline, mon taux de sucre va baisser peut-être trop bas si j'ai pas apporté assez de sucre.
D'accord.
Et c'est vrai que ça, c'est quand tu te trompes, c'est fatigant, surtout quand tu es en voyage, tu as fait trop. Une demi-heure après ton repas, tu fais une hypoglycémie alors que tu viens de manger, tu n'as plus faim. Et même dans des moments comme ça où tu dis, bon, je vais me faire plaisir, j'ai mangé un truc super bon, et tu viens de te manger un barbecue de je sais pas quoi avec plein de riz, t'es là, oh non, j'ai pas envie de manger, j'en peux plus. T'as encore le goût de l'ail dans la bouche, t'es là, oh. Parfois, il suffit que tu sois stressé ou que t'as pas prévu, mais t'as marché plus longtemps que ce que tu pensais que t'allais marcher. Et il y a plein de petits événements comme ça, et tu te retrouves à faire une hypoglycémie ou une hyperglycémie parce que t'avais pas prévu qu'il allait avoir un dessert et finalement le dessert il a l'air trop bon et tu fais je vais quand même le prendre et on verra.
Ouais.
Bon après ça se corrige, mais effectivement c'est vrai que faut accepter de se tromper.
Et alors est-ce qu'il y a des pays où c'est un peu plus simple que d'autres quand tu voyages?
Oui.
Est-ce que t'as des exemples comme ça de pays?
Oui.
Où, tiens,
alors oui et non. Les pays où ce serait le plus simple, c'est les pays où il y a le plus de légumes.
Ouais.
Et où il y a le moins de glucides. Donc effectivement en Asie c'est compliqué parce que le riz c'est la base de la plupart des repas. Donc, je suis obligée de le manger, hein. Mais c'est vrai que c'est trop bon. Et puis en plus, le riz, c'est la base et ça permet d'équilibrer les saveurs aussi. C'est-à-dire que manger un curry sans riz, ça pique. Manger, je sais pas quel plat, un tonkatsu sans riz, c'est un peu salé.
Ouais.
Donc, c'est hyper important.
C'est un coussin de saveurs, quoi. Et t'as la sauce qui va s'imbiber un peu,
oui,
ça va venir
les textures,
rééquilibrer les choses.
Ouais, c'est hyper important. Les États-Unis, c'est l'enfer parce qu'il y a du sucre caché dans tout.
Ah ouais.
Il faut du sucre dans tout. C'est infernal. Même la dernière fois que j'y suis allée, je me dis, vas-y, j'ai la flemme de faire de l'insuline, je prends un chou-fleur rôti.
Ouais.
Chou-fleur, il n'y a quasiment pas de glucides dedans. rôti, ça veut dire qu'il est juste passé au four avec des épices. Et ben, ma glycémie, elle est grave montée. Et
j'ai fait,
qu'est-ce qu'ils ont mis dans ce chou-fleur? C'est pas possible. France, c'est pas mal parce que même s'il y a la culture steak frites, il y a quand même pas mal de plats où c'est viande, légumes, carottes, bon, il y a beaucoup de pommes de terre quand même, carottes, haricots verts. On s'en sort. L'Italie, l'enfer.
Ah ouais? À cause des pâtes partout.
Pâtes, pizza. C'est une de mes cuisines préférées. Mais franchement, si je vais vivre là-bas, ça va être infernal.
Finalement, c'est difficile de trouver une gastronomie dans laquelle il n'y a pas trop de féculents.
Ouais. Souvent, en fait, ça peut te tromper. Par exemple, tu peux avoir souvent, quand tu prends un repas avec beaucoup de glucides, donc des pâtes, une pizza, un burger, on se dit, ah, je ne vais pas avoir faim. Et quand on mange ces repas qui sont riches en féculents, ça fait monter, et en mauvais féculents en plus, parce que c'est souvent de la farine blanche qui est hyper processed, pure, où il n'y a pas de fibres du tout. Le taux de sucre monte hyper haut. Donc pour quelqu'un qui n'est pas diabétique, ce n'est pas trop un problème parce que ça se régule. Mais souvent, et on a le même problème diabétique ou pas, c'est qu'il monte haut et il descend proportionnellement aussi bas. Et c'est ça qui fait que après avoir mangé une pizza ou un burger, on est fatigué.
Ouais.
Parce que, et je sais plus pourquoi, j'ai plus en tête. En plus, j'explique ça à tout le monde tout le temps et à chaque fois, je suis là. Merde, pourquoi ça descend bas déjà proportionnellement? Je sais plus.
J'ai l'impression qu'on a tous ces trucs qu'on explique aux gens et puis après, c'est les demi-anecdotes. Enfin, t'es là avec ton explication et tu fais, il me manque juste quelques petits faits scientifiques.
Pour que ce soit intéressant.
Voilà. Mais tu l'as en gros, tu vois, un peu raisonnement.
Je te balance les infos. Maintenant, tu te démerdes. En tout cas, tu sais que ça va descendre. Et c'est pour ça que souvent, on est fatigué après avoir mangé ces repas ou même qu'on a faim.
Ouais.
T'as mangé une grosse pizza, une heure après, t'as faim et t'es fatigué et du coup t'as envie de remanger des biscuits ou je sais pas quoi pour te remplir. Ouais. Et en fait c'est juste un truc chimique de taux de sucre.
Ouais, c'est ça, t'es crevé par la digestion et en même temps ça veut pas dire pour autant que t'es plus repu parce que t'as déjà envie après de te refaire goûter ou autre.
Ouais. Non mais souvent ce qui aide à être repu, c'est les protéines et les fibres.
Ouais.
C'est...
Du coup, c'est un peu les meilleurs amis de ton alimentation. Alors, si tu tables beaucoup sur ça, a priori, ça roule.
Ouais. Pour me faciliter la vie, je ne suis pas obligée de le faire à chaque fois. Mais si un jour, je n'ai pas envie de me tromper de dose d'insuline, je demande de remplacer les frites par de la salade. Parce qu'en plus, il y a un autre phénomène. Il y a le gras. Alors, le gras, qu'est-ce qui se passe? Le gras, il ralentit l'absorption du sucre dans le corps. Et il se transforme en sucre après avoir été absorbé, je ne sais plus trop de quelle manière. Donc par exemple, si je mange un burger avec des frites, si je fais ma dose d'insuline avant de manger mon burger, je peux faire une hypoglycémie, alors que le pain du burger plus les frites, il y a une dose de glucides incroyable.
Ah oui, parce à cause du gras alors, qui vient bloquer l'absorption.
Ouais, qui vient bloquer l'absorption du sucre, et donc le sucre augmente très lentement, mais très haut. Et donc je vais avoir mangé mon burger avec mes frites, ça m'est arrivé plein de fois, maintenant je commence un peu à comprendre comment ça marche. Mais au début, j'avais mangé mon burger, mes frites, j'en pouvais plus, j'avais fait ma dose d'insuline, hypoglycémie une demi-heure après le burger, je suis là, mais non, c'est pas possible. Donc je mange mes biscuits alors que je suis remplie à ras-bord. Et après, du coup, je suis en hyperglycémie du taux de sucre qui monte à cause des frites, qui monte plus tard. Plus du sucre que je viens de manger pour pallier, du sucre plus rapide que je viens de manger pour pallier à mon hypoglycémie.
Ah oui, donc là, ça fait un cocktail explosif, un peu à retardement, quoi.
Ouais, c'est horrible. Tous les plats un peu gras, faut faire attention.
En fait, quand on t'écoute, on se dit que t'es hyper bien organisée et que même ce truc de voyager avec cette contrainte, c'est presque générateur de créativité, quoi. Ça conditionne un peu ta façon d'explorer un endroit.
J'ai essayé d'appréhender la maladie assez positivement. C'est ma façon à moi d'en faire pas un atout, mais de bien le vivre.
On l'a vu avec Julia et Inès, être loin de chez soi, ça crée un nouveau rapport à l'alimentation. Surtout quand on a des contraintes à différents niveaux, comme le fait de ne pas avoir le temps de quitter l'autoroute ou le diabète, donc. Mais il peut en exister plein d'autres. Par exemple, le fait de passer une semaine à Tokyo avec un très petit budget et du coup ne manger que des onigiri dans des magasins ouverts 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, genre 7-Eleven, ou celui d'être intolérant au gluten dans un pays dont on ne parle pas la langue. Merci à Julien Lelièvre et à Inès Alpha de nous avoir donné de leur temps pour parler de comment se nourrir en voyageant. Inès a parlé de Mapster, ça tombe bien, vous pouvez suivre le compte de Bouffon que vous trouverez sous le nom de Bouffon Podcast, mais aussi le mien, Leistari. On y partage des bonnes adresses dont vous pourrez aussi retrouver certaines sur le compte Instagram de Bouffon ainsi que le mien. Quant au livre photo de Julien, il s'appelle Art d'autoroute et vous pouvez le retrouver dans de nombreuses librairies, par exemple la librairie Volume à Paris. Il a été publié aux éditions Building Books avec des textes de Eric Tabucci, Joël Zask et Camille Bardin. L'ouvrage se termine par un entretien avec Julien signé par moi-même. Bouffon est une émission de nouvelles écoutes portée par moi, Émilie Leistari, montée et mixée par Thomas Decour, programmation par Cassandra de Carvalho et coordination par Laura Cuissard avec l'aide de Mathilde Vinet. À mercredi prochain!